Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Réouverture des lieux culturels, des cinémas, des terrasses de restaurants et de cafés, des magasins dits non essentiels. C'est peu de dire que la journée de demain est attendue en France. Ce sera un peu la même chose en Autriche et à New York, aux États-Unis ainsi que dans de nombreux pays occidentaux où la pandémie de Covid-19 a tendance à décroître plus ou moins rapidement. En Grande-Bretagne, où à la faveur d'une campagne de vaccination plus rapide, on avait pris de l'avance, l'ambiance n'est plus tout à fait la même du fait de la dissémination du variant indien qualifié de préoccupant. Ce début de déconfinement marque-t-il la libération pour de bon? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui dans ce studio. Avec nous, il y a Jean-Stéphane Dersin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en modélisation des épidémies, professeur à l'Université Sorbonne Paris Nord, directeur adjoint scientifique à l'Institut National des Sciences en Mathématiques et de leurs interactions du CNRS, responsable de la plateforme de coordination de modélisation Covid-19 qui s'appelle ModCov19. Nous sommes en ligne avec Mahmoud Zurek. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en épidémiologie et santé publique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et aussi avec Antoine Flao. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et professeur de santé publique à l'université de Genève, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'université de Genève et auteur du livre « Covid, le bal masqué » qui est paru aux éditions Dunod cette année. Alors je sais que vous êtes des scientifiques et que donc rien ne vous choque ou rien ne vous fait peur, mais tout vous intéresse. Mais la journée de demain, Jean-Stéphane Dersin, elle vous inspire quoi? De l'espoir? De la crainte?
Alors on avait eu un comportement avec cette épidémie qui a évolué au cours du temps, c'est-à-dire que lors de ce qu'on a appelé la première vague, hein, les gens avaient peur et on avait fait un confinement très fort et on avait mis longtemps à en sortir. Et je pense que ces confinements qui ont été répétés lassent un peu les gens et les gens ont envie de souffler. Donc là, on en reparlera, mais effectivement, la situation s'améliore. Elle n'est pas formidable, mais il faut quand même intégrer le fait qu'il n'y a pas que la dynamique de l'épidémie qui doit jouer et peut-être aussi, en responsabilisant les gens, essayer d'ouvrir un petit peu.
Mahmoud Zurek, je vous pose la même question. Cette journée du 19 mai, elle vous inspire quoi? De l'espoir ou de la crainte?
De l'espoir, de plaisir aussi. C'est retrouver la vie d'avant ou un semblant de vie nouvelle, c'est toujours très agréable. Ça fait presque 15 mois, on est dans une situation très compliquée. Donc c'est de l'espoir, mais aussi de la prudence et de l'inconnu. Donc c'est une nouvelle étape dans l'histoire de cette épidémie et dans la période de déconfinement. Et on va voir à quoi on peut s'attendre aussi dans les jours, les semaines et les mois qui viennent.
On va terminer ce tour de table inaugural avec vous, Antoine Flao. Même question qu'à nos deux interlocuteurs précédents. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de demain?
Oui, je me réjouis beaucoup pour les Français. On a connu, nous, en Suisse également, une ouverture de nos terrasses un petit peu avant vous. Et ça a été un très grand engouement. Enfin, une sorte de début de vie normale reprise. Je pense que ça a été d'ailleurs très prudent, suivi de façon très prudente par tout le monde. Je pense que ce sera la même chose en France, c'est-à-dire que tout le monde sait très bien qu'on est encore dans la phase de décroissance, de décrue épidémique et qu'il ne faut pas menacer tout l'édifice par des comportements qui pourraient menacer d'un rebond cette décrue épidémique. Mais j'ai tout à fait confiance que les Français sont au courant de cela et ont envie enfin de reprendre un premier semblant de vie un peu plus normal qu'avant.
Donc selon vous, il n'y a pas de risque que les gens se disent que bon, c'est fini, cette fois c'est derrière nous? On est
non,
encore dedans.
Je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Tout le monde sait très bien qu'on est encore dedans. Tout le monde aussi a envie de sauver l'été et de ne pas le menacer par une reprise épidémique trop prématurée. Donc, en effet, j'ai plutôt confiance dans le bon sens des gens. C'est En plus, les pouvoirs publics ont été quand même assez prudents en ne renouvelant, en ne réouvrant pas les salles intérieures des bars et des restaurants, qui, elles, sont des lieux que l'on connaît être à risque. Je pense que l'ouverture des cinémas, des spectacles avec des protocoles sanitaires assez stricts, tout ça ne m'évoque pas beaucoup de dangers dans cette première phase de déconfinement.
Jean-Stéphane Dersin, quel est l'état des indicateurs, et notamment par rapport au premier déconfinement qui était il y a un an et une semaine ?
Alors, c'est assez compliqué de comparer par rapport au premier confinement, puisque lors du premier confinement, on n'avait pas de tests, on avait très peu de tests, et la mesure de l'incidence était relativement compliquée. On pense quand même qu'on a un niveau bien plus élevé que ce qu'on était à la sortie du premier confinement. Là, ce qu'on a observé, pour ce troisième confinement, on a mis un petit peu de temps à descendre, hein, plus que lors du deuxième confinement, et je comparerais plutôt à celui-là. Donc là, on est sur une pente maintenant à descente rapide, avec un taux de reproduction. Donc le nombre de personnes qu'une personne infectieuse va infecter au cours de sa maladie, qui est aux alentours de 0,7 sur la France, avec quelques disparités.
Le fameux R.
Fameux R, tout à fait. Et là, on est en train d'observer une dynamique qui date quand même d'un moment où les écoles étaient fermées, où le confinement était plus fort, où les déplacements interrégionaux étaient interdits. Donc on est quand même en train de voir actuellement la photo, en décalé, d'une situation qui était plus contraignante que ce qu'elle est actuellement. Mais il est raisonnable de penser que le relâchement des mesures qui a été autorisé n'a pas été considérable, et que donc... il est à peu près établi que dans les prochains jours, les prochaines une à deux semaines, on va continuer à décroître relativement rapidement.
Mahmoud Zurek, la grande différence par rapport à il y a un an, c'est qu'il y a des vaccins. Est-ce que le fait que 20 millions de personnes aient reçu une première dose, ça justifie qu'on puisse réduire les restrictions selon vous ?
Certainement, parce qu'il y a les vaccins. Vous avez parlé de 20 millions de personnes qui ont reçu une première dose et à peu près la moitié, un peu moins de la moitié qui ont reçu une deuxième dose. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont été contaminées depuis l'année dernière. Donc, ils ont aussi une immunité naturelle. Donc, il y a une part qui n'est pas négligeable de la population qui est immunisée par rapport à la vaccination, qui est certainement aidée à baisser et à voir l'évolution dont M. Dersin a expliqué. Certainement, dans la semaine et dans les deux semaines qui viennent, on va continuer cette baisse-là. Et c'est une différence majeure par rapport à avant.
Antoine Flao, que pensez-vous du rythme actuel de vaccination en Europe et en particulier en France, puisque je sais que vous suivez ça de très près, même si vous êtes à Genève?
Alors, l'Europe est à peu près homogène, l'Union européenne est à peu près homogène, avec quelques disparités. Malte a un rythme de vaccination beaucoup, beaucoup plus élevé, la Hongrie également. Mais sinon, l'Allemagne est un petit peu au-dessus de la France, la Belgique est à peu près dans le même mouchoir de poche, on va dire. Et la Suisse se retrouve d'ailleurs à peu près dans la même catégorie, c'est-à-dire de gens qui ont, de populations qui ont à peu près 30% de la population qui a reçu une première dose. C'est évidemment très encourageant, et puis le rythme est tambour battant, mais il y a des petits signes de préoccupation qui nous viennent de ceux qui sont un peu plus en avance sur nous. C'est le fait qu'on a du mal à atteindre une 80% d'une population à vacciner. C'est peut-être étonnant, mais finalement, à 60%, on a l'impression qu'on plafonne, qu'on n'arrive pas à véritablement atteindre un certain nombre de gens qui sont réticents, qui sont hésitants, ou certains qui sont plus difficiles d'accès parce qu'ils sont plus isolés, des personnes âgées. Par exemple, il y a au moins 25% des personnes de plus de 75 ans en France qui ne sont toujours pas vaccinées, alors qu'ils étaient prioritaires, mais ils ont eu du mal à se mettre sur Internet. Ils étaient isolés, il n'y avait personne pour les aider, pas de petits-enfants, pas d'amis. Et ceux-là, il va falloir aller les voir et aller les vacciner. De la même façon pour des jeunes réticents, mais aussi pour des personnes des migrants, des gens qui ne comprennent pas très bien tous ces messages, un peu compliqués, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose à quel les pouvoirs publics vont devoir s'atteler assez rapidement, parce que dans tous les pays, on voit ce phénomène.
Oui, Jean-Stéphane Dersin, le mathématicien que vous êtes, est-ce qu'il est surpris par le fait qu'on a du mal à trouver une sorte de deuxième souffle, qu'on plafonne un petit peu ?
Alors, je ne sais pas si c'est le mathématicien qui sait répondre à cette question, hein, puisque c'est essentiellement une décision individuelle des gens. Actuellement, en France, on continue, mais on a bien vu dans d'autres pays, comme disait Antoine Flahault, où on se met à plafonner. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif de 80% correspond à ce qu'il faudrait pour avoir une immunité totale, collective, et donc arrêter l'épidémie, dans le cas où on a... Un variant britannique qui est la souche majoritaire actuellement, qui a un R0 aux alentours de 4,5-5. Donc ça, c'est estimé. Mais il faut voir que ce niveau de 80%, il est nécessaire si l'on veut revenir à une vie telle qu'elle était avant. Et moi, je suis persuadé que la vie ne va pas revenir telle qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mesures que l'on va continuer à prendre qui ne nous coûtent rien. Hein. Juste se faire attention, plus se laver les mains, éventuellement porter un masque en intérieur.
Oui, alors se laver les mains, ça serait sympa que tout le monde continue après cette histoire-là. Oui.
Et donc ça va aider à faire baisser... Dans la lutte contre la pandémie, hein, il y a l'action geste barrière et puis il y a l'action vaccination. Et l'insuffisance de l'une de ces actions peut être compensée par un maintien léger de l'autre. Donc on a en ligne de mire les 80%. Mais je dirais que je pense qu'on surévalue quand même ce besoin de 80%.
Mahmoud Zurek, vous le sentez, vous, cette espèce de point dur, de plafonnement, depuis que les premiers vaccins sont arrivés, on savait qu'il y avait peut-être moins de 60% des gens qui étaient convaincus par la vaccination. Est-ce que vous le sentez, vous aussi, arriver ?
Le plafonnement, c'est pas encore arrivé. L'hésitation vaccinale a régressé, et fort heureusement, parce qu'on vous parlait de 60%, je pense maintenant on voit bien que les gens veulent de plus en plus se faire vacciner. Cependant, il y aura toujours une partie de la population qui sont défiants par rapport aux vaccinations, et une partie, comme Antoine Flahault l'a dit, on a beaucoup de difficultés de l'éteindre pour les arrivées, pour les personnes âgées, etc. Et je pense que le monde de la vaccination appartient à ceux qui savent cliquer et savent, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas Internet, les plateformes pour réserver, etc. Et le 25%, par exemple, de plus de 75 ans qui n'ont pas été vaccinés, il faut énormément d'efforts, énormément de bonne volonté, énormément de moyens pour arriver à les vacciner. Je pense que dans les semaines qui viennent, effectivement, l'objectif de 80% paraît ambitieux et difficile à atteindre, mais il faut faire tout pour qu'on arrive à ce pourcentage.
Antoine Flahault, je complète ma question précédente sur le rythme de vaccination. On parlait de l'Europe et en particulier de la France et aussi de la Suisse, mais dans le monde, est-ce que on n'a pas une vision un petit peu à courte vue locale et ce qui se passe au pied de chez nous, en bas de chez nous, est-ce que dans le monde on vaccine assez vite ou est-ce que ça vaccine trop lentement pour stopper la pandémie à moyen terme?
Alors, je vous remercie pour cette question parce que dans le monde développé, on vaccine tambour battant, les doses arrivent, les différents gouvernements s'organisent et tant bien que mal, on arrive et l'Europe, comme les autres, arrive, certains plus en avance que d'autres, les États-Unis sont plus en avance, Israël, comme on l'a vu, était plus en avance, le Chili aussi, la Grande-Bretagne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que des pays qui en ont énormément besoin, comme par exemple l'Inde, comme le Brésil, mais aussi potentiellement comme l'Afrique, sont beaucoup plus en retard, alors que c'est chez eux que se développent des épidémies absolument dévastatrices, mais qui en plus, sur le plan de la sécurité mondiale, menacent de produire des variants qui peut-être un jour vont être encore plus dangereux ou échapper à la vaccination. Et là, on est assez défaillant. L'organisation du monde sur cette problématique peine encore à vraiment produire suffisamment de doses de vaccins efficaces pour cela. Par exemple, pour prendre un exemple, c'est celui de l'Afrique. L'Afrique a reçu 2% de l'ensemble des doses mondiales, alors que sa population vraiment a besoin aujourd'hui d'être vaccinée, et parce que ce qui se passe en Inde aujourd'hui pourrait se passer demain en Afrique, et que l'Afrique du Sud, par exemple, qui est en train de vivre, elle rentre en hiver, elle, dans l'hémisphère sud, et elle est en train de vivre un rebond épidémique en ce moment qui est assez préoccupant, elle n'a pas suffisamment de doses pour vacciner sa population. Donc je pense qu'en effet, il faut un sursaut international pour produire du vaccin sur tous les continents. Il n'y a pas de production aujourd'hui en Afrique de vaccins contre la COVID-19. Et c'est une grande urgence d'installer ces usines qui vont peut-être mettre plusieurs années avant de produire des vaccins, mais qui, à terme, seront un investissement durable pour ce continent.
Jean-Stéphane Dersin, vous nous disiez tout à l'heure qu'on finalement, on ne sait pas exactement où on en est par rapport au premier déconfinement d'il y a un an. Est-ce que ça veut dire qu'il est peut-être un petit peu tôt pour déconfiner ou lever les mesures de freinage, comme on dirait plutôt dans l'exécutif français ?
Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que comme je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est un tout. Et c'est-à-dire que la politique française, depuis un certain temps maintenant, est celle du système essai-correction, afin de tenir un cap et de maintenir l'épidémie. Donc c'est un choix stratégique que je n'ai pas à juger, que je ne veux pas juger. On déconfine quand même à un niveau supérieur à ce qu'ont déconfiné les Britanniques, par exemple. Mais c'est un choix que je n'aurais pas en question. En revanche, j'aimerais insister sur ce qu'il faut faire quand on fait quelque chose comme ça. Et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Antoine Flahault. C'est-à-dire que le fait d'avoir une circulation importante du virus, donc là, on parle de la circulation en France, mais à une échelle bien supérieure, il y a celle dans les pays du Sud, en Inde, en Afrique. Cette circulation importante fait que le virus va se répliquer, et au moment de la réplication, il va muter de façon accidentelle.
C'est ce qui arrive avec le variant indien.
Tout à fait. Quand il mute, des fois, il a de la chance, le virus, et va sortir de là une souche qui soit est plus transmissible, comme le variant britannique, soit va être moins sensible à l'immunité qui a été acquise, soit par contamination, soit par vaccination. Et ça c'est, je dirais que c'est le véritable problème. Donc là, vous êtes en train de jouer à une sorte de roulette. Et évidemment, si vous jouez 10 fois plus, le virus a 10 fois plus de chances de gagner. Donc le niveau de circulation important, surtout dans les pays du Sud, c'est assez préoccupant parce que c'est un laboratoire à création de variants qui, demain, peuvent remettre en question tout ce que l'on a fait jusqu'à présent.
Mahmoud Zurek, la levée des mesures de restriction, elle est quand même assez progressive jusqu'au 30 juin. Est-ce que demain, on en parlait en début d'émission, est-ce que demain, la vie va changer radicalement en France, selon vous ?
Ça va commencer à changer. On aurait bien aimé que, pour le déconfinement, que la circulation virale est beaucoup moindre et qu'il y a une fraction plus importante de la population qui est vaccinée, ce qui n'est pas le cas. Mais il faut faire avec, et je pense qu'il ne faut pas regarder en arrière ce qui aurait dû être fait en février, et sur la stratégie aussi de réduire un maximum la circulation virale, parce que c'est ce qui a été dit par vos invités aussi, que la circulation virale, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial, la meilleure façon, c'est de réduire pour aussi éviter les mutations. Après, le risque de rebond, il est théorique, il est possible, mais rien n'est sûr. Nous avons quelques points d'optimisme, hein, c'est sur l'histoire de vaccination, sur l'histoire que les gens maintenant, ils ont acquis une expérience de gestion et je pense qu'il ne doit pas y avoir le relâchement tant attendu. Et il y a aussi il y a d'autres points négatifs, c'est l'histoire qu'il y a plus d'interactions sociales, plus de sources de contamination, il y a les écoles qui sont ouvertes, il y a le retour, etc. Et donc, l'ensemble de ça, prédire ce qui va se passer au-delà d'une semaine à deux semaines devient difficile, prédire à moyen terme, très très compliqué. Je pense que le plus simple, c'est prédire le passé et on ne risque pas de se tromper.
Oui. Antoine Flahaut, est-ce que la progressivité, la prudence vous paraît de mise pour ces réouvertures progressives ?
Oui. Je pense que la prudence, pour l'instant, a guidé l'action du gouvernement. Le gouvernement n'a pas précisé ou conditionné à des indicateurs sanitaires ces réouvertures, ce qui pouvait inquiéter les épidémiologistes que nous sommes, je crois. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on est à peu près à 10 000 nouveaux cas par jour, ce qui reste encore un niveau élevé, mais que les modalités de déconfinement sont modestes. Elles ne favorisent pas des interactions très dangereuses dans la population. Il y a toujours un couvre-feu, même s'il est un peu retardé. Il y a des interactions sur les terrasses qui ne sont pas très dangereuses, etc. Ce qui va être potentiellement plus problématique, c'est le 9 juin. Alors, si le 9 juin, on est à moins de 5 000 contaminations par jour, c'est-à-dire si la tendance actuelle, le fameux taux de reproduction qui a été précisé par Jean-Stéphane Dersin, se poursuit, alors on sera dans une semaine presque autour de 5 000, un petit peu plus, dans deux semaines. Mais à ce moment-là, on abordera le 9 juin dans des bonnes conditions et avec une circulation très faible du virus, même l'ouverture des bars et des restaurants, avec bien sûr le respect des gestes barrières, etc., les protocoles sanitaires, hein, ne représenteront pas un risque majeur. Oui. Donc je pense qu'il faut qu'on conditionne aux indicateurs sanitaires. La chance peut-être qui accompagne le gouvernement en ce moment, c'est que ces indicateurs sanitaires semblent pour le moment, en tout cas, être orientés dans la bonne direction.
Jean-Stéphane Dersin, est-ce que cette progressivité de la réouverture donne justement le temps d'analyser les conséquences des changements et de s'adapter ?
Alors pas toujours, hein, surtout là où le rythme va être élevé, c'est-à-dire que vous avez bien vu, il faut 15 jours au minimum pour commencer à voir les choses au niveau des tests. Et là, les mesures vont s'enchaîner à trois semaines d'écart. Donc on va pas vraiment avoir le temps de voir. On va essayer de le suivre au plus près. Moi, je dirais il faut aussi faire attention aux indicateurs que l'on va regarder. C'est-à-dire que là, depuis le début, on a beaucoup parlé du taux d'incidence. On s'est fait piéger. Enfin, on avait alerté, mais en janvier, on s'est fait piéger par regarder le taux d'incidence, alors qu'on avait ce variant britannique qui arrivait, et donc deux épidémies en parallèle. Donc je pense que il va falloir suivre les chiffres, mais il va falloir les suivre de façon précise. Et en particulier, la grosse crainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'arrivée de variants qui très très embêtants, qui pourraient, par exemple, remettre en question l'efficacité de la vaccination. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce qui est fait au Royaume-Uni. Hein. Au Royaume-Uni, il y a un consortium de suivi de surveillance génomique, hein, qui s'appelle COG UK, avec énormément de laboratoires, énormément de séquençages, des mises en commun des séquençages, des publications, des accès en open data de ces séquençages. Donc en France, on a commencé ça en janvier avec les premières campagnes flash qu'on avait vues 7-8 janvier, puis un petit peu plus tard. Donc il y a un certain nombre de laboratoires. Bon, actuellement, on est très très loin des Britanniques, hein, sur le nombre de séquences que l'on fait et sur la mise à disposition. Et je pense que le gouvernement a pris conscience de ça. C'est vraiment une des priorités, surveiller le risque d'avoir une épidémie en parallèle qui pourrait apparaître et que l'on pourrait rater.
Oui. Mahmoud Zurek, le conseil scientifique a fait part de ses doutes quant au calendrier. Est-ce que vous partagez ces doutes ?
C'est pas question de partager. Je pense que le risque de rebond existe certainement. Et le calendrier de confinement, il est assez serré, à la fois pour observer ce qui peut arriver, parce que si vous prenez les deux confinements britanniques, c'est sur presque le double de ces 4 mois, trois ou quatre mois, et ils sont aussi, quand ils ont commencé, ils étaient à un niveau de circulation virale beaucoup plus bas et vaccination beaucoup plus élevée. Et comme le variant indien est en train de se répandre en Grande-Bretagne, et tout est relatif, hein, parce que quand même le nombre absolu est relativement modeste, il commence à s'interroger ce qui va se passer leur dernière étape de confinement, qui est le 19 juin. Donc en disant, est-ce qu'il passe à cette étape-là ou pas? Et je pense que ce qu'il manque, ce qu'il a dit Antoine Flahault, c'est associer ça à des indicateurs sanitaires pour voir est-ce qu'on relâche ou est-ce qu'on revient en arrière. Donc, sur ce point-là, je partage les craintes de conseils scientifiques sur le calendrier de confinement.
Antoine Flahault, est-ce qu'il y a finalement un besoin de desserrer ces règles pour éviter que les choses se fassent de manière privée ou clandestine parce que les gens n'en peuvent plus, quoi, tout simplement?
Alors, non, enfin, je pense que, encore une fois, les peuples européens ont été d'une très grande obéissance et résilience face à ce virus. Et chacun a vu les hôpitaux bondés, les soins intensifs prenant des gens de plus en plus jeunes. Les gens ont vu aussi des formes longues de Covid, rien de très sympathique dans ce virus. Et donc, peut-être qu'il y a une impatience à être vacciné pour un certain nombre. Ça a paru long, même si le vaccin est venu rapidement. Mais je pense que les gens, on peut enfreindre les règles. Alors, on va dire oui à des gens qui mettaient le masque un peu sous le nez, etc. Oui, peut-être, comme vous dites, les gens en ont assez, tout le monde en a assez, mais tout le monde aussi est conscient que ce n'est pas le moment de relâcher de façon désordonnée. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas cette conscience collective-là que l'ensemble de la population finalement tient. Il y a relativement peu de grandes manifestations de mauvaise humeur par rapport aux décisions qui sont prises un peu partout en Europe, même si, encore une fois, dans tous les endroits d'Europe, on sait que tout le monde en a vraiment assez et tout le monde espère que la situation s'améliore et que s'améliore durablement.
Je reste avec vous, Antoine Flahault, pour vous entendre sur ce qui a été évoqué par nos deux autres interlocuteurs, c'est-à-dire la situation britannique. Ils ont déconfiné avec un taux d'incidence beaucoup plus bas, avec un taux de vaccination beaucoup plus haut, puis maintenant il y a le variant indien qui les inquiète. Est-ce que ça vous inquiète, vous ?
Oui, le variant indien est très préoccupant. Il semble très transmissible. Jusqu'à présent, celui qui gagnait toutes les courses en tête, c'était très clairement le variant britannique. Mais même en Inde, le variant indien a pris le dessus, gagne les compétitions. Donc, il est très inquiétant. Et il ne faudrait pas le laisser entrer et se déployer dans un pays où le niveau de contamination n'est pas suffisamment bas. Pour l'instant, en Grande-Bretagne, il est tellement bas, le niveau de contamination, qu'ils arrivent certainement à remonter toutes les chaînes de contamination et à casser ces chaînes. S'il arrivait en France en ce moment de façon prépondérante, là, ce serait vraiment très, très préoccupant. Et comme l'a dit, je ne sais plus si c'était Mahmoud Zurek ou Jean-Stéphane Dersin, mais il est très clair qu'il faut séquencer de façon très active, de façon à surveiller qu'une deuxième épidémie ne soit pas en train de démarrer dans le pays au moment même où on déconfine.
Jean-Stéphane Dersin, vous confirmez, vous suivez un peu évidemment
fait,
en quelques secondes que pour l'instant c'est encore résiduel en Grande-Bretagne, mais que c'est à surveiller.
Oui, et puis là j'abonde dans le sens d'Antoine Flahault. Il faut séquencer. Je dirais il faut séquencer intelligemment, donc avec des campagnes de séquençage, d'échantillonnage. Et surtout, il faut partager les données. Actuellement, en France, on a quand même beaucoup de mal à faire remonter ces données-là. Et c'est grâce à ça, je dirais, qu'on pourra maîtriser cette épidémie.
Merci Jean-Stéphane Dersin. Merci également à nos autres interlocuteurs, Mahmoud Zurek et Antoine Flahault, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Laurent Philippot, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous.